vous présenter le professeur Henri Bismuth. Je crois que je lui laisse directement la parole. Il nous va parler cette fois-ci de la passion d'un organe qui nous tient tous à cœur, donc le foie.
Cela dit, M. Poncet, j'ai l'impression que vous parlez d'une chose tellement infinitésimale, sans intérêt. J'ai mesuré la dimension de mon ignorance. J'ai peut-être même croisé un boson, je ne l'aurais pas reconnu, vous savez. Enfin. Alors, Gilles Manta m'a dit de parler de ma passion pour le foie, mais en me disant très personnel. Bon, je vais essayer, très personnel. Enfin, d'abord, passion. Moi, j'aime beaucoup le sens exact des mots. Alors, passion. Alors, voilà, quand on cherche un mot, on va dans le dictionnaire, vous voyez, tendance, une certaine durée, accompagnée d'état affectif et intellectuel. Ça, c'est intéressant. Affectif et intellectuel, assez puissant pour dominer la vue de l'esprit. Ça a l'air clair, assez objectif, neutre. Mais il y a plus quand même, toujours dans le dictionnaire, amour puissant, exclusif, obsédant, maladie, manie, affectivité violente qui nuit au jugement. Alors là, et alors quand on voit passionné, c'est encore pire. Enthousiaste, ça va, exalté, affolé, effréné, violent, forcené. Je ne vous ai pas mis passionnel parce que c'est encore pire, crime passionnel. Alors écoutez, je vous laisse le soir, à la fin de ma conférence, de choisir l'adjectif qui me va. Alors je vais vous parler de beaucoup de choses. Je vais vous parler de la neige, de la Méditerranée, des figues, mais pas de la pomme aujourd'hui, de Wagner, de Puccini, des Gaulois, des Romains, du jugement de Salomon, mais pas de Prométhée. Bon voilà, ça fait un peu désordre, mais on dit, vous le savez, la passion égare. Alors, tout d'abord, je vous fais un aveu, et je m'adresse à tous ceux qui me connaissent ici. En fait, ça a failli mal commencer. Pourquoi ? Parce que je me destinais à l'orthopédie. Et au début de mon internat, j'étais séduit par l'orthopédie, au point que, interne en deuxième année, j'ai décidé avec un de mes collègues très brillants, qui est devenu un grand chirurgien cardiaque, Jean-Yves Neveu, de faire une sorte de visite dans des centres d'orthopédie renommés, et je suis venu à Genève, oui, à Genève, visiter le service du professeur Hoffmann. Il avait fait le fixateur externe, je suis venu le voir. Ensuite, on a continué, on est allé à Vienne voir Boller, le cadre de Boller, c'est très technique, hein, c'était à notre niveau, c'était interne deuxième année. Donc le cadre de Boller, durant le périple, on a croisé des pistes de ski. J'ai skié, enfin, un jour, c'était la première et la dernière fois, quand je suis surtout tombé. La neige était froide. Ça m'a refroidi. Vous savez, je suis de la Méditerranée et ça a été. Donc ça m'a refroidi. Bon. D'ailleurs, il n'y a plus que ça. Parce que maintenant, je vais vous faire un aveu. J'ai eu, lors du début de mon internat, quelques passages dans des services où il y avait des chirurgiens avec de l'orthopédie. Et le compte-rendu opératoire de l'orthopédiste, c'était. Pansement pour 4 jours, traitement anticoagulant 6 jours, sortie au 7e jour, première consultation dans 2 mois et visite de contrôle dans 6 mois. Et j'ai dit, mais il n'y a rien, il n'y a pas de doute, non. Il n'y a pas d'incertitude, pas d'angoisse, pas de... Non. Ça ne m'allait pas très bien. Mais en vérité, il y avait un deuxième point, c'est que je me suis aperçu que je ne savais pas dans quel sens il fallait tourner une vis. Et quand la penseuse me disait « bismuth, c'est dans l'autre sens », j'ai dit que définitivement, j'abandonnais l'orthopédie. Et alors, le foie, vous savez, en fait, à quoi tient la vie ? Un hasard. Le hasard, à ma nomination à l'internat, on m'avait dit qu'il fallait aller, c'était la course pour choisir les services, qu'il fallait aller dans un très bon service, celui du professeur Epp. Et je suis allé lui demander un poste de stagiaire, il m'a dit, voilà, mon premier poste est celle date. Par malchance, c'était le 9e semestre, l'internat durait 8 semestres, donc je lui ai dit, mais c'est trop tard, j'ai fini l'internat après ma 4e année. Il m'a dit, écoutez, bon, je vous laisse ce stage et vous verrez, vous me direz. Par chance, le service militaire, c'était la guerre d'Algérie, a duré non pas 2 ans et demi, mais 3 ans. Et donc, par chance, j'ai pu avoir le service de M. Epp. Et vous savez, en fait, toute notre vie est en fait déterminée par une rencontre avec un homme, avec une femme. En l'occurrence, c'était un homme. C'est lui. Et alors, j'ai donc rencontré, en fin de mon dernier semestre d'internat, j'étais donc chez M. Epp, et je suis resté 6 mois. Il a eu un chef de clinique pour la première fois. Il n'était pas professeur. Il me l'a offert. Et je suis resté 8 ans avec lui. Et voilà, je vous dis, il m'a tout appris. Il m'a appris tout. Plus que ce n'était pas un organe. C'était la fin d'une opération. Le drain, il s'arrêtait. Il me disait, ah, bismuth, il y a une goutte. Au début, je disais, une goutte, oui, bon. Il me dit, attendons, peut-être qu'il faut rouvrir. Mais après, au bout de quelques années, j'étais devenu comme lui. Vous avez compris pourquoi je frottais le lit vésiculaire à la fin de la cholécystectomie, maintenant que je brûlais, je le frottais. Il ne fallait pas qu'il y ait la goutte. Et tout était comme ça. Par la suite, je l'ai opéré. Il m'a choisi comme son aide préférée. Et il opérait dans le silence, disant rien. Mais petit à petit, j'opérais avec lui. Et il le savait. Et de temps en temps, il me disait, et là, je pique là pour une réparation biliaire difficile ou on va là. Il dit, on va là. Alors, je dis, quelquefois, je faisais une pensée, il me disait, oui, peut-être. Et au fond, j'opérais avec lui. Et c'était 2 cerveaux et 2 mains. Quelquefois même, je me demandais si je ne prenais pas ses mains pour opérer moi-même. Alors, quelquefois, des internes, des assistants venaient se plaindre à moi, en disant, vous savez, on n'opère pas assez dans votre service. Je dis, mais on n'opère pas avec les mains, on opère avec la tête. Il ne savait pas très bien à quoi je faisais allusion, mais c'était à ça. Donc, M. Epp a tout appris. Et vous savez, regardez le sigle, les journées hépatobiliaires. Vous croyez que c'est journée hépatobiliaire ? Non. C'est Jacques Epp, Henri Bismuth. Car j'ai décidé qu'il reste toujours attaché à moi. Voilà, c'était mon patron. J'en ai eu un autre, qui était Jean-Pierre Benhamou. Alors lui, donc M. M m'a appris tout, la clinique, la façon de voir le malade, et surtout la chirurgie biliaire. Jean-Pierre Benhamou, c'était autre chose, c'était la recherche. Il m'a donné mon sujet de thèse, qui était l'anasthésie chez le rat. Ça avait été fait qu'une seule fois par un Coréen qui avait écrit une demi-page. Il a fallu que je découvre tout, même les instruments. J'ai donc dû faire les instruments, savoir même comment opérer les rats. Je faisais l'anesthésie, l'intervention, les examens biologiques, je faisais même les électrophorèses en pesant dans son laboratoire les petits jeux. Et je faisais, voilà, l'anastomose porte-cave chez le rat, une veine porte qui avait 1 mm. C'était le premier travail, je ne savais pas, c'était le premier travail de microchirurgie en Europe. Et je me suis d'ailleurs aperçu, ce travail, que les rats devenaient encéphalopathes. J'ai publié un papier d'ailleurs sur l'encéphalopathie du rat, et qui était apparemment pour vous difficile à trouver, que je savais reconnaître. Et je me suis aperçu, quand je faisais des portographies chez les rats non encéphalopathes, qu'ils avaient en partie bouché anastomose avec une circulation collatérale qui ramenait le sang au foie, bon, détruisant donc l'anastomose, d'où l'idée de l'anastomose partielle, de l'aspect norénal que vous avez connu dans le service. Et quand j'ai vu de très jeunes enfants de 2 ans avec des hypertensions portales, une veine splénique de 2 cm, j'ai dit, mais aucun problème, on va faire des anastomoses plénorénales sur des veines de 2 cm. Le rat avait une veine de 1 mm, c'était un jeu d'enfant, si je veux dire. Et donc, avec Jean-Pierre Benhamou, j'ai appris l'hypertension portale. Et me direz-vous, et le foie? Eh bien, le foie, à ce moment-là, on était dans les années 64-65, certes, Lorta Jacob avait déjà décrit l'hépatectomie droite réglée. M. Hebb disait d'ailleurs, à sa phrase, l'hépatectomie réglée, c'est bien, mais en cours de route, elle se dérègle souvent. Ce qui était vrai. Ce qui était vrai. Alors, le foie, c'était vraiment ce gros organe globuleux, plein de sang. Puis, on ne savait pas par où l'ouvrir. Alors, il y avait des hépatectomies droites pour d'énormes tumeurs. Ça saignait, mortalité de 50%. Et là, alors, contrairement à l'orthopédie, voilà un sujet digne d'intérêt. C'était vraiment la terra incognita dans lequel... Vous savez, j'aime les déserts, le sable, le désert. Je me suis engagé. Et je cherchais la clé. Comment aborder cet organe? C'est important, la clé. Un moyen. Il y en a qui ont été géniaux. Regardez, Claude Bernard. Claude Bernard a dit, le foie est trop gros pour ne faire que de la bile. C'est génial. Mais ça, c'est du génie à l'état pur. Et vous savez ce qu'il a fait après ça? Il a branché dans la cour de l'Institut un foie lavé sur un tuyau et il a mesuré le glucose à la sortie. Quand il était lavé, il n'avait pas. Il attendait un petit peu et le glucose sortait. Il a décrit la fonction glycogénique du foie. Voilà. Et il avait raison. Le foie est trop gros. Mais moi, je n'ai pas trouvé de phrase comme ça. Alors, en cherchant bien, je n'ai pas trouvé une phrase, mais j'ai trouvé un livre. Et ce livre, qui avait été déjà publié par Cuneau en 1957, c'était Le foie, ce livre énorme, entre nous totalement illisible. Mais il y avait... La clé, elle était là, et cette clé, c'était comment rentrer dans le foie. Comment, en suivant les scissures, Cuneau le disait d'ailleurs, mais personne ou presque n'avait lu son livre. Voilà, on rentrait les foies, il y avait les lignes de division du foie, et c'était. Et au fond, c'est comme une carte quand on rentre dans une ville, hein, le plan de la ville. J'ai appris après que. Pendant la dernière guerre, les résistants changeaient les panneaux des plaques de rue et les Allemands se perdaient. Seulement avec ça. Mais là, on avait la carte. Après, j'ai dit d'ailleurs, cette notion de plan et de voie de pénétration du foie m'a permis de dire que Cuneau avait, comme vous le savez, numéroté le foie en partant du centre, en tournant vers la gauche, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, les 8 segments du foie, c'est le centre de Paris. Ça me plaisait un peu de dire aux Américains que le foie était parisien. Et quelques années après, j'ai publié ce livre, évidemment avec un titre un peu accrocheur, Surgical Anatomy and Anatomical Surgery of the Liver, dans lequel, au fond, je reprenais, j'avais déjà commencé à faire toute la chirurgie anatomique en suivant ce principe de Cuneau. En fait, c'était Cuneau que je montrais là, avec plus de chirurgie, quelque chose de nouvel, plusieurs choses nouvelles. Par exemple, Cuneau était un anatomiste, très peu chirurgien, anatomiste génial. Mais le foie, il était sur la table, puisqu'il disait que les secteurs latéraux, il disait secteurs latéraux, le 7 et le 8, secteur latéral droit. En fait, quand on le mettait sur le malade, c'est pas ça du tout. Le secteur dit latéral était postérieur. Je me suis souvent trompé au début à cause de Cuneau, donc j'ai rectifié le plan de Quinault, simplement en remettant le foie, le secteur postérieur, à sa place. Ensuite, en parlant de la façon de couper le foie, j'ai dit que, parce que les chirurgiens asiatiques avaient dit que la digitoclasie c'était très bien, j'ai dit mais peut-être, mais les doigts asiatiques vont être très petits, parce que moi, quand je faisais ça, j'écrasais le foie, c'était horrible. Alors j'ai dit on peut le faire avec une pince de Kelly, donc c'était déjà la kellyclasie. Beaucoup ne savent pas que, en fait, c'est de là, en 1982, que j'ai parlé de la kellyclasie. Et voilà, donc, j'ai commencé à décrire la chirurgie du foie. 2 années après, nouvelle révolution, l'échographie péropératoire. J'étais allé la voir au Japon, je l'ai ramenée immédiatement en France, j'avais même fait un livre, et l'échographie péropératoire est venue montrer... Alors, ce n'était pas le plan sur le foie, on voyait à l'intérieur du foie du malade. On n'avait pas besoin de mettre dans sa tête l'anatomie du foie et de la projeter sur le foie du malade. C'était l'anatomie même du malade qu'on voyait. Et j'ai dit, mais avec l'échographie, le foie devient transparent. Et donc, rien de plus simple que de faire la chirurgie du foie sur ce foie transparent. Et donc, voilà, toutes les segmentectomies très tôt... Certaines segmentectomies étaient déjà décrites par les Japonais, j'ai décrit tout le reste, et voilà, les segmentectomies, sectoriectomies, hémihépatectomies, tout pouvait y passer. Et voilà la chirurgie du foie. Mais il n'y a pas que ça, il y avait autre chose qui était venue. Je vous rappelle que Tom Starl, en 1963, avait fait déjà la première transplantation hépatique. Extraordinaire, ça m'a tout de suite emballé, c'est pas aussi simple. J'ai mis du temps et en 1974, on a fait à Paul Brousse la première transplantation hépatique. Alors là, quelque chose d'intéressant dont je vais vous... Parce que, en fait, les pionniers à l'époque, il y avait Tom Starzl, il y avait Roy Kahn, évidemment, à Cambridge, qui était élève de Starz, Pickelmeyer, Rudolf Pickelmeyer, Hanovre, élève de Starz, et puis moi je suis apparu. Les trois étaient des transplanteurs de reins. Ils faisaient le rein et puis ils sont arrivés au foie après que Starz ait ouvert la voie. Je n'ai jamais transplanté de rein. Même maintenant, de ma vie, je n'ai jamais transplanté un rein, je ne sais pas ce que c'est. Et je suis arrivé à la transplantation du foie par la chirurgie du foie, contrairement à eux qui sont arrivés par la transplantation, ils ont trouvé le foie. Et en venant par la chirurgie du foie, je me suis aperçu, du moins je ne me suis pas aperçu, qu'il y avait peut-être des choses intéressantes. Là, le hasard. Un jour, vous voyez, ce malade, qu'un hépatologue, Pierre Berthelot, m'avait envoyé. Ah oui, parce qu'on en faisait environ 1 à 2 par an. C'était des malades moribonds. Je me souviens, il y en a un, on m'a envoyé, le malade, il est mort en rentrant dans le service. Et même pas aller en salle d'opération. Tellement ces malades étaient graves, les hépatologues à l'époque disaient, ils sont... Quand ils vont mourir, on peut l'envoyer au chirurgien. J'avais la bêtise d'accepter. Alors, celui-ci est arrivé, et puis regardez, c'était en mars 77. Non, ça, c'est son évolution. Il est arrivé à ce moment-là, ici, en janvier 78, dans le coma, ascite massif. Il avait un ictère profond, une prothrombine effondrée, vous voyez, une albumine à 18. Il était vraiment moribond. Il rentrait dans mon programme de transplantation, je dois vous dire. Très bien, on cherche immédiatement un foie. À l'époque, il y avait Yves Lecomte qui travaillait avec moi, et Dominique Franco, et donc Yves Lecomte est allé chercher le foie. On avait un donneur, c'était un enfant. Et lorsque Yves Lecomte est arrivé, il m'a dit, voilà le foie. C'était un foie d'enfant de 5 ans qui pesait 500 grammes. Le malade pesait 80 kilos, il avait une ascite énorme. Et j'ai dit, mais Yves, je ne pourrais jamais mettre ce foie à la place du foie. Alors Yves Lecomte était obnubilé par une chose, le thorax. D'ailleurs, il est devenu brillant chirurgien thoracique et il disait que le foie, sa place normale, c'était le thorax. Et d'ailleurs, on a dit d'ailleurs qu'au fond, c'est vrai que le diaphragme était inutile. Et qu'à ce moment-là, voilà, il n'y avait pas de limite entre nous. Et il voulait que je le mette dans le thorax. J'ai dit, le malade est déjà sur le point de mourir. Alors là, si on ouvre le thorax, il va mourir. Et j'ai dit, mais on va le mettre au-dessous du foie. Et donc, on l'a mis au-dessus du foie, comme ça. en hétérotopique, auxiliaire hétérotopique, et le miracle. Le mal a survécu. C'est suite compliquée, mais le mal a survécu. Et quand on l'a publié, je vous l'ai montré tout à l'heure, dans le Lancet, deux ans plus tard, eh bien, j'ai mis cette phrase, je ne sais pas si vous la voyez, j'ai dit, parce que j'étais très intéressé par ça, j'ai dit que c'est très difficile de trouver un foie petit, c'est rare d'avoir un donneur enfant, et j'ai dit, eh bien, il faudrait réduire le greffon pour faire une hépatectomie à la carte de façon à diminuer la taille du foie et le faire rentrer dans l'abdomen. Je mettais souvent dans les articles en anglais un terme français avec l'espoir qu'un jour, à force de faire des articles et de mettre des mots français, les Américains, au moins les chirurgiens, apprennent un peu de français. Ça n'a pas tellement marché, mais enfin, à la carte, ça a marché. Et là, eh bien, c'était au fait une phrase, principe, fondatrice, car c'était la première fois que dans la transplantation hépatique entrait la chirurgie du foie, parce que le Lancet a eu une prémonition de l'impact de cette idée, mais c'était le début. Pourquoi ? Parce que immédiatement, je l'ai appliqué et j'ai commencé à faire des hépatectomies du greffon sur la table près du malade, de façon à faire des petits foies pour les mettre en hétérotopique. Ça n'a pas très bien marché, je vous avoue, mais il y a eu immédiatement une application. L'application, c'était les enfants. Alors, vous avez vu ce premier cas, c'était le hasard. Par hasard, il y a eu un malade dans le coma, par hasard, un foie d'enfant. Le hasard, c'était un petit enfant, il n'est pas si petit que ça, il avait 11 ans, mais il était tout petit parce qu'il avait un retard saturopondural dû à sa maladie de Bilaire. Il s'appelait Martial. Et Martial, quand j'étais assis au bureau, sa tête dépassait à peine, je voyais ses yeux, et il m'a dit, avec une lettre qu'un grand pédiatre de l'hôpital d'à côté avait envoyé à son médecin traitant, lui disant, il faut laisser Martial mourir, il n'y a aucune chance d'une transplantation. J'étais à 1,5 km, Martial est venu me voir et m'a dit, docteur, il faut m'opérer. Parce que, vous voyez, le jour à l'école, tout le monde se moque de moi parce que je suis jaune, et le soir, je ne peux pas dormir, la nuit, je ne peux pas dormir parce que je me gratte. Et ce petit m'a tellement touché que je lui ai dit, écoute Martial, j'ai tendu la main à travers la table, je lui ai dit, écoute Martial, je te promets, je t'opérerai. Mais après, il fallait trouver le greffon. Très rare de trouver un greffon petit, mais sauf que je me suis aperçu, j'en faisais. Et donc, très rapidement, le donneur suivant, un adulte, j'ai fait la même opération que pour les autres, et donc fait une réduction du greffon pour faire une transplantation orthotopique chez un enfant. Et lorsque on a décrit ce papier deux ans plus tard, j'ai attendu par prudence pour savoir si je n'avais pas été mal reçu par la communauté chirurgicale. En fait, je ne m'étais pas aperçu que ça allait révolutionner la transplantation pédiatrique, car à l'époque, plus de la moitié des enfants mouraient en liste d'attente. Et grâce à cette technique, en tout cas en France, en Europe, et d'ailleurs même aux États-Unis, puisque à Chicago, Chris Walsh immédiatement l'a fait, eh bien, il n'y a plus de décès d'enfants en liste d'attente. Alors, vous voyez, aller un peu plus loin, toujours dans des conditions d'urgence, j'avais lancé le programme de transplantation hépatique pour hépatite fulminante, il fallait trouver un greffon immédiatement. L'organisme français était d'accord pour le donner, avec l'accord des autres transplanteurs hépatiques, il y en avait très peu à l'époque, mais ils étaient d'accord, mais le problème, c'est que quand on a une fillette de 10 ans et qu'on a un foie de 2 kilos, eh bien, facile, on réduit le foie et on fait même une transplantation auxiliaire orthotopique. Voilà, donc il y a eu toutes les applications. Alors là, je vous ai dit tout à l'heure le hasard. Et je parlais avec M. Poncet tout à l'heure pendant le déjeuner, on a parlé du hasard, la nécessité, c'est vrai. C'est une règle biologique. Le hasard, dans tout ce que j'ai montré, il y avait le hasard et la nécessité. C'était le hasard d'une circonstance, un malade et un petit foie. Et la nécessité de faire le geste, voilà. Mais le reste a été également une conséquence du hasard et de la nécessité. C'est lorsque, eh bien, un jour, c'était le 1er mai, on a reçu une jeune femme avec une hépatite fulminante dans le coma, gravissime. On lance l'appel pour le foie. En France, il n'y en avait pas, 1er mai. Il y avait un foie, alors je reviens à nouveau en Suisse, il y avait un foie à Berne. L'équipe de prélèvement part à Berne, m'appelle et me dit, bon, on peut prendre le foie, mais le donneur est énorme, c'était un policier, énorme, de 2 mètres, il avait un foie, on m'a dit, au moins de 2 kilos. J'ai dit, on n'a pas le choix, on le prend. J'ai dit, on fera une réduction, c'est pas grave. Sauf que, immédiatement après, une deuxième malade, avec une hépatite fulminante, rentre dans le service. Et quand le foie arrive, je me suis dit, c'est quand même terrible, on va jeter dans le baquet la moitié du foie, alors qu'on n'a pas d'autre donneur et qu'il y a une deuxième malade qui meurt d'hépatite fulminante. C'est là, encore une fois, sous la nécessité et avec le hasard d'avoir ces deux malades, j'ai décidé de couper le foie en deux, c'est le jugement de Salomon, on coupe le foie en deux, mais pour que les deux en bénéficient. Et donc, on l'a fait avec un foie, deux malades. On l'a publié un peu. Je ne suis même pas mis dans le titre que c'est le premier cas mondial, parce que 2 mois auparavant, Rudolf Pickemeyer, à Hanovre, avait fait déjà le premier cas, mais c'était une opération réglée, déterminée, entre un adulte et un enfant, qui était la bonne façon de faire. Là, je n'avais pas le choix. C'était donc 2 adultes, en plus, en urgence. Voilà. Donc, encore une fois, une illustration de ce hasard et nécessité qui est, je pense, un facteur de progrès considérable. Adrien Renner parlait des histoires de chasse. Ça peut être des histoires de chasse. Et c'est ça, peut-être, le moment où il y a un déclic qui fait avancer. Tu as dit, Gilles Manta, les études contrôlées, ça contrôle. Et c'est vrai. Et vous savez, il y a un livre remarquable de Koestler, je crois que c'est un mathématicien, un physicien, qui s'appelle « La logique de la découverte », un gros livre. Je l'ai acheté parce que la logique théorique, c'est intéressant. À la 50e page, il dit, dans ce livre, je ne décrirai pas comment faire une découverte. Je dirai simplement comment vérifier, comment contrôler la véracité de la découverte. Quant à la découverte elle-même, il citait Einstein. Il disait, Einstein, la découverte n'est rien d'autre que l'amour intellectuel des faits. Et ça, j'ai trouvé que c'était remarquable. C'est un peu ça, le hasard et la nécessité. Alors, je voudrais maintenant revenir, je quitte la transplantation, je reviens au foie. Au foie et aux interventions sur le foie. Au fond, ce schéma avec les définitions de sectoriectomie, hépatectomie, rien n'a changé maintenant, sauf une chose, c'est qu'on a voulu changer les noms. On a changé les noms. Un comité international, surtout américain, avec un chirurgien américain que j'estime beaucoup, qui est un très bon chirurgien, qui s'appelle Strasberg, eh bien, ils se sont réunis, ils ont dit, on va changer la dénomination. Alors, ils ont changé la dénomination, ils disent, plus de secteurs, des sections. Et on fait des sectionectomies. Et en fait, pourquoi? Je peux vous dire pourquoi. D'abord, ici, il y a une section qui a un segment, on ne sait pas pourquoi. Ici, il y a un segment. Et deuxièmement, la fameuse latérale section, c'est parce que les Américains ont toujours appelé ça left lateral segmentectomie. Alors d'abord, ce n'était pas un segment, c'était 2 segments, alors qu'ils devaient adopter le terme left lobectomie, qui est le terme anatomique morphologique exact. Ils n'ont pas voulu, exemple de la mondialisation dirigée, ils ont préféré changer toute la nomenclature plutôt que d'adopter ce que nous avons décrit. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord d'abord parce qu'il n'y a aucune raison de changer ce qui existe. Ensuite, parce que sectionectomie, c'est pas phonétiquement, c'est même sectionectomie, c'est pas beau, c'est pas ça. Écoutez. Mais sectoriectomie. C'est tout jugé. Alors, le foie, Puccini, Wagner, bon, bien que la Callas, j'ai pas triché, j'ai mis la Callas des deux côtés. J'aurais pu mettre les Valkyries, alors ça aurait été bien pire. Et le foie, d'où vient le mot foie? Alors, voilà, le grec, épars, ça, ça a donné hépatique. Alors là, les Indo-Européens, vous avez vu, yerk, le sanskrit, persan, latin, yekour. Bon, les Anglo-Saxons avec liver, c'est leaf, life, live, ça vient de vie, c'est pas mal. Mais enfin, foie. Eh bien, foie, je vais vous dire d'où ça vient. Ça vient du latin yekour. Quel rapport entre yekour et foie? Alors, vous vous souvenez, j'ai annoncé hein, les Romains et les Gaulois. Lorsque le général gaulois, Brennus, est arrivé au pied du Capitole, les Romains dormaient, souvent. Ils ont été réveillés par les oies, les fameuses oies du Capitole. Bon, ça, vous le savez. Mais pourquoi y avait-il des oies? Il y avait des oies parce que les Romains adoraient le foie gras d'oie qu'ils nourrissaient avec des figues. Et le foie nourri aux figues, c'était yepour ficato. Alors, le yepour est parti, ça c'est très italien, ils ont gardé uniquement ficato, qui est devenu fegato, higado en espagnol, et foie en français. Donc, le foie, purement latin, vient de... D'ailleurs, je vous conseille, vient du mot latin, de, c'est génial, le foie vient de foie gras. D'ailleurs, je vous conseille, il y a un plat français, foie gras chaud aux figues. Vous voyez, la gastronomie française a conservé la figue. Et une fois, j'ai interrogé un cuisinier, il m'a dit, mais la figue va très bien avec le foie. Il ne savait pas pourquoi. Alors, le foie latin. Mais quoi, latin? Alors, on va aller un peu plus loin. Voilà le foie, l'objet de nos passions. Qu'est-ce que le foie? D'abord, le foie, plus gros organe de l'organisme, il est en compétition avec le cerveau, deuxième plus gros organe de l'organisme. Mais ils n'ont rien à voir. Le cerveau dirige l'organe d'essence, branché sur la moelle, le système locomoteur, c'est l'organe de la relation extérieure. C'est, il va défendre, il va chercher la nourriture, c'est, voilà, c'est l'homme. Le foie, dans l'organisme, il reçoit quoi? Il va recevoir, au sortant du grêle, toute la nourriture que l'homme est allé chercher. Il est dans la cuisine. C'est la femme qui prépare la nourriture pour tous les autres organes de l'organisme. C'est l'organe clé qui nourrit tous les autres, qui nourrit le cerveau. D'ailleurs, vous savez, quand le cerveau meurt, le foie ne meurt pas puisqu'on le prend. Quand le foie meurt, le cerveau meurt. Le foie vit plus longtemps que le cerveau. D'ailleurs, tout le monde le sait, les veuves vivent plus que les veufs. Alors, ce foie, en fait, je n'ai pas parlé du cœur. Le cœur, c'est un muscle. Vous êtes d'accord? Je crois qu'il n'a vraiment aucun intérêt dans l'affaire. Pourtant, comme vous le savez, on lui donne le siège de l'amour, le siège des sentiments. Ça n'a rien à voir, parce que le siège des sentiments, vous imaginez bien où il est. Il est là. Restons en Méditerranée, passons de l'autre côté. De l'autre côté, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, même en Extrême-Orient, quand on aime son aimé, on l'appelle mon cœur, comme nous. Mais si on l'aime passionnément, on l'appelle mon foie. C'est là où on met le superlatif du foie. Alors j'imagine et je voudrais que l'on change et l'on supprime cet organe déplacé et qu'on le mette à sa place. L'organe réel, l'organe de la passion, l'organe de la passion, et que, alors je vous explique, j'aime, alors évidemment, il y a ici un pléonasme, c'est j'aime le foie par le foie, mais j'ai marqué dessous CHB. C'est quoi CHB? Premièrement, c'est chirurgie hépatobiliaire. C'est l'acte chirurgical que l'on fait à nos patients, c'est les soins. La chirurgie hépatobiliaire, c'est la partie clinique de notre activité. Mais c'est également le CHB, le centre hépatobiliaire, la structure, cette structure que j'ai faite, dans laquelle j'ai mis l'ensemble des spécialistes autour du foie et qui me paraît être la meilleure structure pour donner ces soins aux malades. Mais c'est également, et je voudrais terminer sur ça, les compagnons hépatobiliaires, c'est-à-dire ces jeunes chirurgiens qui sont venus autour de moi, avec moi, me pousser à aller de l'avant. Et je voudrais, pour terminer, puisque beaucoup d'entre eux sont là, terminer, les remercier d'avoir fait du foie la passion de ma vie. Merci.
Ce congrès, finalement, puisque tout a une fin. Je pense que je ne vais pas commenter toutes les conférences. Il y a un verre de l'amitié qu'on va pouvoir prendre ici à l'extérieur. Et puis, j'aimerais simplement vous dire que nous avons été ravis de vous avoir tous ici à Genève, là où il y a deux compagnons, puisqu'il y a le docteur Pietro Maino et moi. Et donc, c'était un plaisir de vous avoir pour ces 3 jours, pour ce congrès. Alors, je vous propose maintenant à passer pour boire ce verre d'amitié. C'est là-bas.